Vous écoutez
RMC.
RMC.
Les gens d'avoir arrêté d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Il faut arrêter d'avoir peur.
C'est pas la danse classique quand même. Je suis désolé. Il y a des coups, quelquefois, il n'y a rien de méchant.
Je dois juste dire à notre supporter. Excuse.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot. Thomas Desson.
Une émission préparée par Cyprien Bétou. Ça y est, ils sont installés dans leur siège au premier rang en business. Bleu foncé, si vous nous regardez sur RMC Sport News, très élégant. Damien Périnel, bonsoir.
Bonsoir, la veste PSG pour l'occasion.
Il a analysé toutes les attitudes, oui, tous les à côté aussi. Ça va François?
Salut, bonsoir les amis. Bleu foncé aussi pour moi, la veste bleu foncé.
Messieurs...
La chemise.
Oui, très bien, ce bleu nuit, ce bleu parisien finalement, même si on va être impartial. Le débrief, PSG Nîmes dans un instant, les deux matchs de l'après-midi à Pierre-Mauroy, victoire du LOSC, le nul entre Strasbourg et Metz, et les cadors anglais qui ont assuré, ouais, la jeune garde de Frank Lampard est loin du compte. Messieurs, tout de suite, 30 secondes, c'est parti, François Malardeau, tes 3 points de la journée.
Sur ce dimanche, hein, on va pas parler de,
oui,
de Ligue 1, d'accord. Mais alors, bon, Verratti, que j'ai trouvé, mais un peu plus qu'affûté, j'ai déjà trouvé terriblement inspiré, excellent, très bon, voilà, vraiment, j'avais presque envie de dire, écoute, garde-en un peu quand même sous le pied pour le Money Time à partir du deuxième semestre de cette saison. Deuxième point sur cette journée de Ligue 1, donc, qui se conclut. Alors, j'ai regardé 5 matchs hein, sur les 10. J'ai pas vraiment été emballé, conquis. Alors évidemment, ce n'est que la première journée, mais voilà, toujours le même refrain de ce jeu trop direct, très physique.
Faut finir, monsieur, troisième point.
Et non, ben le troisième point, mais on l'a dit juste avant, dans la bouche de Kevin, c'est Kilo Kerrer, quoi, pour parler encore une fois des Parisiens, que je comprends pas l'entêtement de Thomas Tuchel à titulariser le joueur allemand.
On va en parler. 37 buts, effectivement, l'an dernier, alors qu'il y a eu une moyenne de 2,55 buts au fil de la saison. Il y en avait 3,7 par match l'an dernier, un peu moins pour cette première journée. Damien, tes 3 points.
On va parler du 3 points qu'on va retenir sur ce match, le match de ce soir. Le projet de jeu de Nîmes, pas compris ce qu'ils étaient venus faire ce soir au Parc des Princes. Ensuite, l'attaque parisienne en feu, avec interchangeable avec Sarabia, Di Maria. On voit tout de suite qu'on perd pas en qualité, on peut même gagner en qualité. Ensuite, la cellule de recrutement de Lille, parce que et Christophe Galtier, parce qu'on a vu un Lille dans la lignée de l'année dernière, et ça va être très intéressant de les suivre toute la saison.
Super, messieurs. Assez en accord avec vous aussi. Mbappé affamé, mais pas toujours altruiste. J'ai l'impression qu'il est à la chasse au but dès la première journée, un petit peu vite. LOSC, d'accord avec toi, Damien, champion du scouting. On va parler de ce joueur de 20 ans, Victor Osimhen, auteur d'un doublé. Et puis, Chelsea a le blues. C'est plus la chanson de Made in Paris, Paris a le blues. C'est Chelsea a le blues avec son entraîneur, son chef de file qui en a pris 4 face à Manchester United. Le débrief de PSG Nice, c'est maintenant...
PSG Nîmes.
Que je dis
PSG, mais heureusement, c'est pas pour tout.
Heureusement que vous êtes là, les gars. Nice a gagné 2-1 hier avec
Donnarumma. Ah ouais, on est là. D'ailleurs, il y a 2 points, je suis pas d'accord avec vous, les amis.
Bon, très bien, justement, ça va nous donner du fil à retordre. Hashtag RMC Live 32-16. Vous réagissez avec nous. PSG Nîmes, donc 3-0, un peu inéluctable. À l'usure, on le rappelle, la physionomie, un missile de Cavani sur pénalty, le 2-0 avec Kylian Mbappé, et puis ce 3-0 avec Di Maria qui, comme au Trophée des Champions, est rentré pour une dernière demi-heure, tout feu, tout flamme. Est-ce que... Allez-y, on y va sur la physionomie du match déjà, Damien.
On va commencer par ce qui est positif. Du côté du Paris Saint-Germain, on a tout de suite vu une équipe concernée. Qui a su à quoi s'attendre en ayant ce groupe. Nîmes a joué dans un 6-3-1. Ça, en fait, je l'avais rarement vu.
Alors, t'as rajouté un défenseur de plus.
On était à 5, mais parfois, on était même sur une ligne de 6. Une 6 derrière. Et donc, justement, en positif, c'est qu'ils les ont eu à l'usure. Maintenant, il y a des aspects dans le jeu parisien où ça peut progresser, notamment, bah, c'est là où je vais rebondir sur ton point, François, sur l'apport d'un arrière droit, Thilo Kehrer, parce que quand tu joues face à une équipe qui est avec une seule pointe en plus, Ripart, où la vitesse c'est pas son fort. Voilà, tu peux jouer avec des latéraux un peu plus haut. Bernat l'a fait. La preuve, il a fait passe décisive en deuxième mi-temps, même en phase d'attente en première mi-temps, il était plus haut sur le terrain. Mais en revanche, Sarabia se retrouvait bien seul. Et heureusement qu'on a affaire à un grand joueur qui est capable de partir pied droit, pied gauche dans ses éliminations, ce qui fait que ça crée de l'incertitude au niveau de la défense adverse, mais aucune aide de la part de Kehrer. Nombre de ballons joués de l'avant, je sais pas, que des ballons vers l'arrière. Donc voilà, le jeu peut, et surtout quand tu joues face à une équipe comme ça avec une grosse défense, il faut des dédoublements sur les côtés, passer dans le dos de ton milieu, et ça on n'a pas vu ça côté droit. Voilà, sur ce que j'ai vu. Et puis ensuite, bah écoutez, ça a déroulé hein, à l'usure. Et puis encore une fois, Nîmes, qui n'a pas joué sur ses points forts, qui aura pu être la vitesse de Ferrat et de Philippe Otto. Malheureusement, on les a trop peu vus. Et parce que Ferrat aura pu mettre en difficulté Bernat un bon nombre de fois, je pense, avec sa vitesse.
Troyes et Caen le savent tellement bien, cette deuxième saison qui est toujours plus dure. Perte de Savanier, Ferry, Bouanga, Tube. Deuxième saison, quand tu as fait une première saison en tant que promu, ce sera très compliqué pour les Crocos.
Terminé 9e. Sur le travail de SAP du Paris Saint-Germain, qui leur permet, comme tu dis, à l'usure, de débloquer la situation, on peut en discuter quand même. Parce que ça se fait via un pénalty. Alors, il est évidemment contestable, mais je pense que François et Kevin ont, en tout cas François, a rappelé les nouvelles règles qui sont désormais depuis le 1er juin 2019, qui sont en place, qui sont exécutées par le corps arbitral. Clément Turpin ne s'est pas trompé. En revanche, et c'est aussi notre ADN, est-ce que la règle, pour autant qu'elle est appliquée, est-ce qu'on la trouve dans l'esprit du jeu? Et est-ce que, au fond, le Paris Saint-Germain, s'il n'y a pas, non pas ce coup de dé, ce coup du sort, parce que, évidemment, c'est à l'usure et on le sent venir, parce que la domination, elle est
mais bon,
tellement
première, nette, il a eu pas mal en première, hein, des occasions.
Mais j'aurais bien aimé, par rapport à ce que les, non pas les Nîmois ont proposé, parce que ce qu'ils ont proposé, c'est juste de défendre le plus bas possible.
Ils sont venus pour pas prendre une pilule, en fait. Mais mine de rien, quand il même, la peine quand même.
Quand même, en se disant peut-être que avec un moment donné, la fatigue ou une baisse de concentration, on aurait une opportunité. Peut-être qu'il aurait pu l'avoir en exploitant vraiment un peu mieux, même pas un peu mieux. Ils auraient dû être parfaits pour mieux les exploiter, les contres, mais ils n'ont pas réussi à l'être. Mais j'aurais aimé voir ce match se débloquer autrement que par ce fait de jeu.
Alors, tu y vas sans y aller. On va y aller, on va pas passer 15 points dessus, mais effectivement, voilà. Tu dis le corps arbitral, justement, parlons de cette histoire de corps. C'est vrai que c'est gênant, cette histoire de surface non naturelle du corps. Maintenant, Pablo Martinez.
C'est gênant, quoi.
Mais, c'est gênant, cet énoncé est gênant. C'est là que tu dis, même s'il y a des nouvelles règles, il va falloir les respecter parce qu'elles sont énoncées depuis le 1er juin. Maintenant, effectivement, on pense à cette surface dans la latéralité. Là, il la siffle aussi devant. Alors, ce que Thomas, dit Pablo Martinez est justifié. Il dit j'essaye de me mettre loin de l'adversaire pour prendre.
Ce qui est gênant, mais on en a déjà parlé, on va en reparler toute la saison. Mais même ça va peut-être nous faire les deux saisons à venir parce qu'il va falloir quand même qu'on accepte ça, que ça rentre comme une pilule à défaut, peut-être même pire, un suppositoire. C'est que c'est pas l'esprit du jeu, c'est l'esprit pour le corps arbitral de plus se protéger, de laisser un peu moins de place à un spectre plus large de l'interprétation. Le ballon va à la main, c'est pas un pénalty. La main va au ballon, c'est pénalty. Ça, c'était avant. C'est terminé, les amis. Et toi, t'as été joueur.
Bien sûr que c'est frustrant.
T'as été défenseur.
Bien sûr que c'est frustrant.
Tu sais à quel point ces nouvelles normes sont en train de modifier votre
comportement.
Jeu. Ta carrière est terminée.
Mais justement,
on va à l'encontre de l'esprit du jeu.
Tu dois former. Au centre de formation, il faut que tu formes tes joueurs différemment en fonction de la règle à appliquer aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une règle, elle est claire, elle est simple, elle est contre l'esprit du jeu, peut-être. Là, il y a eu des changements de règles sur les 6 mètres, les remises en jeu, qui vont dans un esprit de jeu, justement, où les joueurs peuvent...
Oui, ça, en revanche,
et ben voilà, ça va dans l'esprit du jeu. Là, il y a une règle qui va contre l'esprit du jeu, certes, mais c'est une règle. Et c'est une règle, il faut l'appliquer.
Elle est fondamentale.
Par contre, là, moi, je voudrais revenir sur un point, c'est qu'il faut l'uniformité. Et surtout, ils ont décidé de faire cette règle, mais que les arbitres l'appliquent. Parce que hier, quand tu fais le match Clermont-Lens...
Oui, mais non.
Ouais, mais regarde,
non, mais on se contredit, là.
Non, parce que regarde, t'as le match Clermont-Lens hier, et textuellement, sur la règle, c'est marqué que même si le ballon vient d'être touché par un coéquipier ou un adversaire se trouvant en proximité et que le ballon touche la main, il
n'y
a pas pénalty. Et hier, ça a été sifflé pénalty à Clermont.
Alors, c'est pas une erreur d'interprétation, parce que ce que tu viens d'évoquer, et c'est là où ça me pose problème, moi, c'est que ce que tu viens d'évoquer, ce n'est pas une question d'interprétation, c'est une question d'application stricte la règle.
Et c'est une erreur
de l'arbitrage.
On a a priori le meilleur gardien ce soir, le meilleur arbitre, pardonnez-moi, ce soir. C'est le problème d'uniformité. Mais toi, justement, quand tu étais à défendre dans les 6 mètres, tu ne te posais pas cette question d'avoir les bras dans le dos, comme on peut se la poser depuis une saison ou deux. Je vais même aller plus loin aux États-Unis. Pour permettre un festival offensif, peut-être pour permettre de voir davantage de buts, la ligne offensive en football américain n'a le droit que de repousser, alors que les défenseurs peuvent carrément faire hippon. Donc les défenseurs sont de plus en plus amputés dans un duel face à un attaquant dans les 6 mètres.
On avait des consignes, parce que la VAR, en fait, aux États-Unis, est intervenue un an ou deux avant. C'est le premier pays à avoir eu la VAR aux États-Unis. Et le coach nous disait, mais écoutez, c'est simple, en fait, je vous demande aujourd'hui, dans la surface de réparation, de mettre vos mains derrière le dos. Vous mettez vos mains long du corps derrière le dos.
Mais tu peux pas défendre comme un Playmobil.
Tu faisais en sorte que sur les centres, voilà, tu ne te pouvais plus te jeter. Tu devais juste rester comme proche du ballon, sans les bras écartés.
Non, mais quand le coach vous disait ça, Damien, coach, vous êtes malade.
Tu es obligé aujourd'hui. Il faut t'adapter à la règle. Encore une fois, tu as une règle. Qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte ou on défend encore comme avant?
Non, mais la règle ne dit pas d'avoir les mains collé au corps, Damien. La règle, elle dit deux choses depuis le 1er juin.
La
surface corporelle de manière
non naturelle.
Donc, on est dans l'interprétation toujours. Sauf que le champ de l'interprétation, il s'est très sensiblement réduit. Moi, c'est ça qui m'emmerde. Et la deuxième chose, c'est que si ton bras, la ligne de ton bras est au-dessus de ton deltoïde, au-dessus de ton épaule, c'est pas naturel.
Damien, tu t'es senti 30-40-50% moins bon une fois qu'on t'avait enlevé tes bras qui te permettaient d'être équilibré.
Non, c'est pas t'es moins bon, t'es plus fort. Est-ce que tu dois t'adapter? De toute façon, c'est comme ça. Sinon, on siffle le penalty. Tu préfères quoi? Tu t'adaptes ou qu'on siffle le penalty à chaque fois?
Tu dois t'adapter.
Tu t'adaptes. Mais donc, parce que c'est la règle qui veut ça.
On est là pour aussi faire du débat et on est dans nos opinions, Damien. Mais on peut dire que ces nouvelles règles-là ne protègent pas le jeu. C'est mon avis. Elles protègent les arbitres. Et ça, ça m'ennuie un peu. Et Dieu sait si je les respecte. Et certains, dont Clément, je les connais un peu. C'est le meilleur français, effectivement.
Regarde la main de Liverpool-Tottenham comment il s'appelle
Moussa Sissoko. C'est la nouvelle règle. Le bras au-dessus du niveau de l'épaule.
Mais t'es obligé de siffler main.
Et nous verrons des scores sans doute.
Mais c'est emmerdant par rapport à.
Et nous verrons des scores sans doute plus fleuves avec ça. On va retrouver Arthur au 32-16, qui est rassuré. Bonsoir Arthur, par la prestation du PSG.
Bonsoir Lafter. Alors oui, moi je suis plutôt rassuré rassuré peut-être pas autant, mais je suis satisfait de ce match, de ce qu'on a vu en deuxième mi-temps. J'aurais bien voulu en voir un peu plus en première. C'est vrai que ça jouait pas beaucoup. On a beaucoup laissé les Nîmois jouer, puis ça s'est débloqué sur ce penalty. Bon, on va pas revenir dessus. Hein. Moi, je pense que va falloir s'adapter aux nouvelles règles, même si elles ne sont pas dans l'esprit du football. Après, en deuxième mi-temps, j'ai bien aimé l'entrée de Di Maria, qui tout de suite s'est bien impliqué en allant marquer le troisième but. Mbappé aussi, qui a été très intelligent. Déjà, il met un très beau but après un très bon travail de Bernat. Et j'ai bien aimé aussi l'implication d'Mbappé sur le troisième but, qui a tout de suite fait la passe pour Di Maria, alors qu'il y a quelques mois, il aurait pu tenter une frappe directement. Donc là-dessus, je suis satisfait pour notamment du match d'Mbappé et de Bernat.
Moi, j'aimerais bien mettre, si tu permets, en lumière un Marquinhos. Regarde le deuxième but justement où Bernat.
L'ouverture de Marquinhos.
Et ça te rappelle pas le but de la semaine dernière contre en Trophée des Champions où justement il met un petit ballon piqué par-dessus la défense sur Sarabia qui l'a remis en une touche à Mbappé qui l'a marqué.
Ouais. Très bon parallèle avec ce but là. C'était.
C'est la même chose de l'autre côté et justement face à des défenses comme ça peut être une solution et puis en plus de ça Marquinhos qui est capable de mettre des ballons comme ça c'est super intéressant pour cette équipe.
C'est surtout l'appel de Bernat. Parce que l'appel, il vient vraiment, vraiment de loin. Et si Kerrer, je sais pas s'il était sorti à ce moment-là, s'il peut regarder le match et s'en inspirer, ce serait pas plus mal.
Arthur, est-ce que
est-ce que
Di Maria, comme au Trophée des Champions, fait une superbe fin de match parce qu'il y a encore un très bon travail de Sap et une très belle heure de Pablo Sarabia.
Sarabia, excellent encore, ouais, j'ai beaucoup aimé, donc très intelligent, très impliqué. Di Maria, dès qu'il l'a remplacé, très bon. Il s'est tout de suite appliqué. Après, moi, il y a un joueur que j'ai vraiment trouvé fantomatique, c'est Draxler.
Justement, moi, je pensais qu'il allait sortir pour Di Maria et que Sarabia aurait pu jouer justement à la place de Draxler et en laissant Di Maria, comme ça a été le cas autrefois des champions d'ailleurs. Mais en effet, j'ai trouvé que Draxler avait pas assez d'influence encore, qu'il doit avoir plus de ballon et
plus du
jeu.
C'est pas là où il a vraiment la possibilité d'afficher ses qualités. Pour moi, c'est sur un côté, et offensivement ou dans l'axe. Quand tu le voyais à Wolfsburg, il jouait sur les côtés.
Ça ou Schalke, côté plutôt. Un vrai attaquant de côté.
Mais bon, vu la concurrence au Paris Saint-Germain sur les côtés. Compliqué pour lui. Mais...
Arthur, on te remercie. On va prendre tout de suite Aubin parce qu'on fait du joueur par joueur. On fait un petit peu cette revue d'effectifs. Bonsoir Aubin, t'es avec nous.
Bonsoir Aubin.
Bonsoir l'after, bonsoir tout le monde.
Salut Aubin.
Sur qui tu veux te focaliser Aubin?
Bah écoutez, moi je vais me focaliser sur mon préféré, c'est Verratti. Alors je vous explique, moi j'étais au stade, hein. J'étais au match. Mm-hmm. Il y a un truc que Verratti fait qui est affligeant, c'est son échauffement. J'ai regardé tout son échauffement, que ce soit la partie avec ballon, sans ballon. Encore avec ballon, ça faisait un peu professionnel, ça allait. Sans ballon, je vous assure, ce joueur-là ne sera jamais un grand joueur. Moi, je l'adore. Avec Cavani, c'est mon préféré du PSG, il n'y a pas de souci. Mais ce ne sera jamais un grand joueur. À s'échauffer comme ça, on dirait Ben Arfa, il y a deux ans, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait des cassettes sur lui qui étaient pas mal, qui a fait tout rire.
Il faudrait qu'on sache qui tu catégorises parmi les grands joueurs chez les 6. Pour voir si Verratti a besoin de rentrer dans la catégorie auquel toi tu veux le rentrer.
Tu mets Pirlo, tu mets Deco.
Alors, il sera jamais Pirlo ni Deco. Oui, ça, on est tous d'accord avec toi.
Aubin, tu sais, je veux dire,
il y a autre chose.
Un échauffement quand t'es joueur, c'est vachement personnel. Je veux dire, t'as des joueurs qui vont avoir besoin de faire des sprints à aller-retour, de se mettre minable pendant un échauffement, et t'en as d'autres. Bah eux, ils préfèrent faire rentrer dans le match comme ça. Donc si tu veux, c'est une situation qui est un ressenti qui est très personnel quand tu es joueur. Et puis
pour Aubin, il faut que tu sois bon l'échauffement pour être un grand joueur peut-être plus tard. Mais je voyais pas l'échauffement de Pirlo ou de Deco.
Et je peux dire que Pirlo, tiens, quand on a joué contre lui quand tu étais à New York City FC. Ah, c'était plus la main dans les cheveux, le brushing que.
Ce qui est dingue, c'est qu'on est.
À New York, c'était la fin de sa carrière.
C'est vrai, bien sûr, mais bon. Tu sais, ça a jamais été un. Pirlo, un mec qui taclait tous les côtés et qui se mettait ultra minable.
Il avait des gars à côté de lui aussi, Pirlo.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais à ce niveau-là, je suis d'accord avec toi à 100%. Ça dépend des joueurs, il n'y a aucun souci. Mais je t'assure que Verratti. Ça avait l'impression d'un élève en terminale avec son prof de PS.
Aubin, si après tu veux nous dire que, compte tenu du match qu'il fait ce soir, pour moi c'est le meilleur parisien,
j'ai mis dans un de mes 3 points.
Si en plus de ça, il aurait réussi, ou il aurait voulu faire plutôt, un échauffement très poussé, ouais, bon, si tu veux, mais moi l'échauffement je m'en tape. Compte tenu du match qu'il fait ce soir, franchement, ça nous va très bien.
Ce qui est dingue, Aubin, avec François, c'est qu'on est...
J'ai un deuxième point.
Oui, vas-y.
Très rapidement, par contre, il faut qu'on fasse un truc. Thilo Kehrer, le pauvre, on l'aime pas, on le siffle et tout, mais il a rien à faire là, le pauvre. Il a pas le niveau. Qu'on arrête, ça y est, Thilo Kehrer, qu'on arrête, ça y est, stop.
Ouais, tu nous permets une transition, Aubin, c'est parfait. On était ébahis par les prestations de Verratti, que ce soit au Trophée des Champions ce soir. Et effectivement, bon, il fait son entraînement à sa manière. Mais merci Aubin, ça nous permet d'enchaîner effectivement.
Salut,
parce que j'ai envie de vous poser cette question. Ce 11-là est-il amené à bouger, notamment avec ce poste une nouvelle fois de latéral droit? Ou Thomas Meunier est rentré sur la fin, mais Thilo Kehrer n'a fait que des passes en retrait.
Oui, et oui, alors oui, il a bougé parce que on n'est qu'à la première journée de ce championnat. Et puis bon, il y a des joueurs comme Kimpembe, par exemple, sont out. Herrera, malheureusement, pour le Paris Saint-Germain, bon, s'est blessé, donc on verra s'il revient, et s'il revient en poste de titulaire d'ici 3-4 semaines, c'est ça. Après, Thilo Kehrer. Alors, Thilo Kehrer, on l'a vu dans l'axe, pendant la préparation du Paris Saint-Germain. Il n'a pas été convaincant. On le revoit ce soir au poste qu'il a occupé pendant toute la saison à Paris, latéral droit. Je ne l'ai toujours pas trouvé convaincant.
Je revois Damien, Van der Ville. Je revois Van der Ville quand c'était un peu le maillon faible.
Ah, mais même Van der Ville, je le trouvais meilleur que Kehrer. Voilà, en fait, je ne comprends pas, surtout par rapport à la concurrence qui est la sienne au PSG, donc c'est-à-dire celle de Meunier, comment Kerrer, et pourquoi plutôt, pas comment, mais pourquoi Kerrer est 8 fois sur 10 titulaire à la place du Belge.
Ouais, donc, comme le dit François, quand tu regardes le match, et au bout de 25 minutes, 30 minutes, et que tu fais une fixation sur Kerrer, et c'est là où je vous pose la question, mais il a fait combien de passes vers l'avant ? Alors qu'il avait plein de possibilités. Et tu joues encore une fois contre une équipe qui joue à un seul attaquant et tu en profites même pas pour aller au-delà de ta fonction de défenseur latéral. Mais va aider un peu, va aider ton copain et fais-toi plaisir avec le ballon. Je sais pas, moi.
Il a pas dédoublé une fois avec Sarabia.
Avec un frein à main ou, et voilà. Et le problème, c'est que on se connaît pas son poste. Parce que axial, c'est pas top. Arrière droit, c'est pas top. On l'a même vu jouer en équipe d'Allemagne, même contre équipe de France. Je me souviens, c'était un système à 5. Et il jouait sur le cinquième côté droit. Il apportait rien offensivement. Voilà, aujourd'hui, quand t'as un latéral qui apporte pas grand-chose contre une équipe qui joue à 6 derrière.
Et qui défend mal. Et qui défend vraiment surtout, mal.
Mathieu, vraiment au 32-16, nous dit Kerrer a une catastrophe. Bonsoir, Mathieu.
Ouais, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Salut, Mathieu.
Ben, justement, parce que vous parliez des latéraux, ben, je savais pas si vous étiez informé pourquoi j'ai appelé. Justement, pour moi, c'est une catastrophe. C'est un problème récurrent au PSG. Ben, vous parlez de Vanderville, etc. Donc, moi, on se moquait de Bernard Mendy, mais je pense qu'il était meilleur que Kerrer. On avait même Ciara. Je pense que Ciara, c'était le meilleur arrière droit qu'on ait eu jusqu'à maintenant. Je suis pas sûr, mais je pense. Parce que Aurier, bon, bah, on sait ce qui s'est passé avec l'affaire Telescope et tout. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a le petit Dagba. Donc là, on a Meunier. Donc, est-ce que Tourelle, il a une dent contre lui? Je sais pas pourquoi.
Mathieu, est-ce que c'est une dent contre Meunier ou est-ce que c'est Tourelle né en Allemagne, Tourelle allemand, entêtement à ce niveau-là?
Non, Thomas, ils ont le même agent. C'est juste ça, on peut dire. Ils ont juste le même agent. Après, en Allemagne, attends.
Non, mais je veux dire, il y a un moment, ils sont en tête avec ce qu'il avait vu avant.
Mais bon, la passe en retrait pour Lukaku contre Manchester, il l'a assumé. Et là, bon, on va pas... Contre Nîmes, ça passe ce soir. Mais là, contre Liverpool, n'importe qui, on prend le bouillon avec un...
Mais même contre Lille, ça suffit, tu sais. Contre Lille, c'est compliqué. Mais pour en revenir sur le cas de Kerrer, voilà, c'est quelqu'un qui est là depuis un an, maintenant. Je veux bien l'excuse de la première année. On peut dire, allez, il faut qu'il s'adapte à un nouveau pays, à un nouveau club ou à ces grosses pressions. Mais là, cette année, tu dois tout casser normalement. Et il faut que tu prennes une autre envergure que ce que tu proposes actuellement.
Tu peux
il
même pas donner
un dédoublement.
Moi, je m'en rappelle d'un France-Allemagne.
Tu peux même pas donner l'excuse de la première saison, je trouve.
Oui, Mathieu, France-Allemagne, t'avais des références, Mathieu.
Je m'en rappelle d'un France-Allemagne au Stade de France. Kerrer était titulaire. C'est Joachim Löw qui l'avait mis. Moi, j'étais surpris parce que je crois qu'il y a Kimmich. Il était peut-être blessé ou quoi, qui est meilleur. Et il avait fait un gros match. D'ailleurs, il avait venu attaquer Mbappé. Je sais pas si vous vous souvenez.
Jour-là, il jouait à 5 derrière l'Allemagne. Et il jouait côté, je crois qu'il n'avait pas fait un centre.
Il n'était pas rentré. Là, il avait la grinta, mais franchement, au PSG, c'est une cata. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est quoi? C'est le petit Dagba. Moi, franchement, il a fait une super saison. Limite, il est meilleur que Kerrer, quoi. Mais je pense que là, le mercato, il n'est pas fini. Mais je pense qu'au poste de latéraux, faut... Après, la Bernat, franchement, c'est magnifique, la petite passe en retrait pour Mbappé. Mais après, on ne va pas parler de Kurzawa. J'appelle pour la Kerrer, machin. Mais les latéraux, on a un gros problème, quoi. C'est
vraiment... là, vous pensez souvent au Titi. Mais avant de parler de Dagba en choix numéro 3, il y a Meunier déjà.
Ouais, Meunier, oui, je suis d'accord, mais moi je pense que Meunier c'est le titulaire et après c'est Dagba pour moi devant Kerrer.
Mais Meunier, faut le remettre dedans, parce que voilà, il est en fin de contrat, là à la fin de la saison, et lui dans sa tête, qu'est-ce qu'il dit? On compte pas sur moi, donc en gros je suis un peu la solution par défaut jusqu'à présent. Voilà, il faudra peut-être lui témoigner un peu plus de respect.
Damien, on prend.
Est-ce que Tourelle a envie de le remettre dedans? Ça,
on
c'est
prend,
la question.
Voilà. On prend. Tiens, avec l'auditeur sur Thomas Meunier, est-ce que techniquement il est moins bon que Kerrer?
Non.
Non. Est-ce que physiquement, il a plus d'impact que Kerrer?
Oui.
Oui. Est-ce qu'il défend mieux que Kerrer?
Oui.
Oui. Et est-ce que, par rapport au poste de latéral, est-ce qu'il a un tank accroché aux pompes? Non.
Il te coûte moins de carton.
Il te coûte moins de carton aussi.
Non, mais surtout, offensivement, il sent vraiment les coups. Il sait mieux qu'il faut y aller.
Quand on a pris la remontada,
c'est la simulation de Neymar, en fait, sur Meunier. En fait, ça a coûté son poste au PSG, on dirait. Mais bon.
Honnêtement, c'est ce que je me demandais, si l'extra sportif, mais au niveau mondial, de Thomas Meunier pouvait lui coûter des choses. Maintenant, l'impact de Neymar l'an dernier, il est plus que minimisé. Il y a eu des pancartes et des banderoles hostiles à son égard ce soir. Merci Mathieu.
Vas-y, un dernier mot. Vas-y, bien sûr. À mon pote Joe, s'il vous plaît.
Eh ben, casse dédié à Joe alors.
Eh ben, casse dédié à Joe de Montpellier, il vous écoute tous les soirs et il vous kiffe et l'after, vous êtes les meilleurs.
Merci. Encore. Merci beaucoup Joe et Mathieu, on vous remercie. Vous continuez de réagir, évidemment, au 32-16 ou sur le hashtag RMC Live. Oui, ce 11 est amené à bouger. Déjà, on a deux pas de gauche. Sarabia, je vais y arriver. Sarabia, Di Maria, ça c'est acté, mais quid du futur
pour ce 11. Di Maria. Moi, le Di Maria contre Rennes et le Di Maria de ce soir, même si c'est des bouts de match, Damien, mais ce Di Maria-là, tu le prends et les gars, vous le mettez dans le formol, mettez une petite cloche dessus et vous n'y touchez plus. Je pense qu'il est en feu.
Di Maria, ce joueur, il est obligé de sentir qu'il y a du monde derrière lui pour lui mettre un peu le feu aux fesses.
Et de l'amour devant.
Pour qu'il se bouge devant.
Ouais.
Pour qu'il se bouge. Parce que là, il y a Sarabia. Il sent le vent dans le dos. Donc, il est productif. Il a été productif l'année dernière à partir du moment où Draxler est arrivé aussi. Souvenez-vous, parce que avant que Draxler arrive, mais on n'en voulait plus de Di Maria au PSG. On disait, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'était un fantôme pendant les matchs. Il est capable.
À Manchester, bon, il arrive avec un transfert de dingo. Il passe complètement au travers parce qu'effectivement, il y a cette dimension physique en plus.
Et ne pas oublier l'histoire du poste aussi. C'est-à-dire qu'il est capable de jouer comme il jouait au Real. Il était très performant en milieu relayeur. Et c'est peut-être ça l'avenir pour lui.
Très, très peu au PSG. Moi, j'ai pas le souvenir d'un match où il joue
au PSG, milieu.
Mais oui, au
Real.
Mais il est champion d'Europe en jouant à ce poste-là.
Exactement.
Et il était mais on l'a pas utilisé. Ni Unai, ni Thomas Tuchel ne l'ont utilisé dans ce registre-là. Même pas en championnat, je pense.
Mais là, ils ont une doublette quand même entre Sarabia et Di Maria. Ouais, ils ont oui, du choix.
En plus, Sarabia, tu peux même le faire jouer. Tu peux même le faire dépanner côté gauche. Tu pourrais presque l'associer aussi dans l'axe. À Séville, c'est un joueur qui pouvait jouer, alors pas un ailier vraiment côté gauche, parce qu'il pouvait jouer avec deux attaquants, parce que c'était plutôt Luis Muriel qui jouait sur la gauche, mais c'est un joueur qui peut prendre l'axe, c'est un joueur qui peut décrocher. Bref, c'est un peu un couteau suisse, Sarabia, mais un couteau suisse qui fait les choses bien, voire très bien.
Et quand t'es défenseur, et la différence qu'il y a entre ces deux joueurs, Di Maria, tu sais que 9 fois sur 10, il va partir sur son pied gauche. Et là, on voit que Sarabia, ça le dérange pas de partir à droite et de centrer avec son pied droit.
Hein. C'était cette association, Ben Yedder, Sarabia. Et c'est une association qui a permis assez vite de voyager.
La répartition des attaques, elle est tout à fait équilibrée. 32, 33, 34, quand je vous parle de ces chiffres, c'est des pourcentages sur les côtés. Et dans l'axe, j'ai émis ça et j'ai entendu, t'as dit pas d'accord. Mais est-ce qu'à un moment, Cavani n'est pas un petit peu oublié, la chasse au but pour Kylian Mbappé n'est pas un petit peu vite enclenchée, il y a un oubli à 10 minutes de la fin?
Non,
ou pas,
je crois pas. À un moment donné, il fait un centre tendu, Kylian, sur la première période, et Cavani la reprend, mais mal. Le ballon va mourir comme ça au second poteau. Non, j'ai trouvé un Mbappé qui a respecté le jeu, et donc le jeu de ses partenaires. Je l'ai pas trouvé égocentré dans son jeu. Après, non, c'est un attaquant, il va aussi penser à sa gueule à un moment ou à un autre.
Alors, je sais pas si je serais aussi catégorique que toi sur ces pensées-là, parce que pour moi le plus beau geste d'Mbappé
c'est
ce soir, c'est la passe sur Di Maria.
Mais
pourquoi?
Tu reviens parce à ce que je dis.
Non, je vais te dire pourquoi après. Je reviens là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il se sert de l'appel de Draxler. Il prend pas la première solution de Draxler qui emmène tout le monde parce qu'il aura pu la mettre à Draxler. Il la met à Di Maria derrière. Le problème, c'est que derrière, il a la même situation. Exactement. D'ailleurs, je crois qu'il se fait mal sur la frappe. Il a juste à mettre un tout petit ballon à Di Maria à côté. Et c'est la même chose, ça fait but.
C'est l'oubli à la 80e, là, à 10
voilà,
minutes de la fin.
C'est ça. Et après, sur le positionnement de Mbappé, voilà, qu'il soit à gauche ou dans l'axe, de toute façon, il finit dans l'axe et ça fout un bordel pas possible dans la défense adverse. Il est capable de donner, de redemander. Et en première mi-temps, c'est lui qui faisait les changements de rythme aussi quand même. Donc,
on prend deux petites minutes, messieurs, pour finir sur le cas du gardien numéro 1. Difficile ce soir d'en parler parce que la position moyenne de Paris, il n'y a que Diallo qui était dans sa moitié de terrain. C'est vous dire si le Paris Saint-Germain a évolué assez haut et Areola n'a pas eu d'arrêt à faire. Mais est-ce que Keylor Navas doit venir dans cette équipe? Le gardien du Real.
Keylor Navas ou un autre gardien
ou un autre
d'expérience. On
voilà,
parle de trentenaire
d'expérience.
Le gardien du Milan AC, c'est peut-être un des tout bons en Europe dans les prochaines années. Il est encore très très jeune. Mais je pense pas que le Paris Saint-Germain doive miser sur un jeune gardien, mais plutôt sur un gardien d'expérience. Entre un Navas et un Donnarumma, moi, je penche pour un Navas.
Mais un Navas dans un transfert sec ou dans un échange avec incorporé avec Neymar potentiellement? Parce que si c'est ça, un Navas, c'est quoi? C'est 31, 32 ans? Il
32
reste un an de contrat.
Le costaricien, ouais.
Moi, je crois qu'il lui reste un an de contrat. C'est ça, il me semble. Je veux dire.
Très vite dans le mercato, en juin, on avait évoqué 20 millions. On avait évoqué 20 millions. Mais c'est vrai que quand on parle d'un échange de Neymar avec un joueur, on n'avait pas pensé au poste de numéro 1 dans ce deal.
Ouais, donc mais il y a quand même d'autres idées, je pense. Il y a un gardien moi que j'aime bien, c'est un Onana qui a fait une Ligue des Champions extraordinaire avec
le gardien de l'Ajax,
par exemple. Je veux dire ça au pied, c'est ultra performant, c'est tonique. Alors est-ce qu'il a aujourd'hui la capacité est-ce qu'il est vraiment au-dessus d'Areola, c'est ça? Parce que si tu changes de gardien, c'est pour prendre meilleur, c'est pas changer pour changer, ça sert à rien.
On était ça va vite hein, messieurs. Oui, on était sur le cas Real il y a 24 heures, ça s'est désengagé. On est plus proche d'un échange avec le Barça en ce qui concerne le cas Neymar.
On est plus proche d'un échange avec le et puis demain on sera plus proche peut-être d'une transaction avec le Real. Ça, enfin franchement ce feuilleton là, moi je pour l'instant
pour l'agent c'est réglé,
il y a 10 jours je pense que Neymar est plutôt parti pour rester, mais avec beaucoup de précautions oratoires. Vu la complication du dossier, comme chacun le sait, comme tout le monde le sait, je vais pas enfoncer une porte ouverte. Donc, je me tais sur ce sujet du possible transfert de Neymar.
Ouais, compliqué, encore une fois. Ça dépend ce que Paris veut aussi. Ils veulent du cash, ils veulent des joueurs. Qui peut mettre du cash?
Ah, c'est beaucoup vraiment, de cash, surtout.
Voilà. Parce que ça leur permet aussi, eux, de faire un vrai mercato, parce qu'aujourd'hui ils ont vendu autant qu'ils ont acheté, et ça c'est la première année, il me semble que c'est comme ça.
Mais le travail de Loïc Tanzi, Mohamed Bouafsi ces derniers temps là à la corde, c'est Barcelone qui la tient avec, ça a débuté avec 300 millions puis 200, puis désormais éventuellement un joueur et un montant honorable aux yeux du Paris Saint-Germain.
Un joueur qui doit être choisi par le PSG en fonction des besoins du PSG et non pas en fonction de ce que veut donner le Barça. C'est ça le deal.
Je pense que le Real a plus besoin de Neymar que le Barça de Neymar, compte tenu de l'effectif du potentiel offensif de
la conclusion,
de
c'est que le Paris Saint-Germain s'aperçoit qu'il n'a peut-être plus besoin de Neymar. Il nous reste une demi-heure dans l'after. Vous écoutez l'after sur RMC dans un instant. Les matchs de 15h, de 17h et un point sur la Première Ligue. A tout de suite.
RMC, l'afterfoot, Thomas Desson.
Avec François Manardo, avec Damien Périnel, une émission préparée par Cyprien Bétou. Passons au match de 15h à Pierre-Mauroy. Un LOSC plus dense, peut-être plus appliqué sur 90 minutes, qui était venu à bout du Football Club de Nantes. 2-1. Rapidement, un doublé de Victor Osimhen, 19e et 80e minute, alors qu'il y avait eu une réduction de l'écart, même une égalisation, devrais-je dire, à la 51e avec un but contre son camp de Célix sur un tir de Giroto. Messieurs, des points d'ancrage, des balises avec vous. Un recrutement réussi de Luis Campos, qui avait ciblé ce Nigérian il y a 8 mois maintenant. Gernot Rohr l'a emmené à la CAN pour une 3e place avec les Super Eagles. Luis Ocampos, c'est Yoda.
Pas seulement au Mianze, au Chimène.
Victor
Osimhen.
Osimhen, si vous voulez.
Je pense qu'on va en reparler. On va mieux prononcer, qui nous excuse. On va mieux prononcer son nom d'ici très peu de temps, vu sa performance de cet après-midi. Moi, j'ai trouvé que le match était un peu plus du côté du LOSC, mais c'est surtout ce joueur, par son talent seul, un peu plus lui que dans l'expression collective, je dirais, c'est ce joueur qui a débloqué la situation, notamment sur le deuxième but. Et je vais même te dire que si Lafond, le gardien nantais, le nouveau gardien nantais, avait été tout simplement meilleur, peut-être qu'on parlerait d'un match nul de Lille et de Nantes, et ça n'aurait pas été volé pour les Canaries.
Effectivement, par rapport à ce qu'il dit, François, dans l'expression collective, hier, Dia et Reims, c'est très fort. Mais là, c'est Osimhen un peu le go-to guy, l'homme qui a décanté la situation.
Ouais, sur ce match de Lille, il y a eu une très bonne première demi-heure et 20 très bonnes minutes à la fin avec la rentrée de Yazici, il me semble.
C'est Youssouf,
si on prononce comme ça, le plus gros.
Voilà, prend lui aussi parce qu'il était pas mal, ouais.
Mais on voit les principes de jeu qui restent les mêmes. Ouais. Et quand on disait que quand on posait la question à Galtier, je me souviens très bien hein, au mois de mai, alors es-tu inquiet de voir Pépé partir? Il fait non, je suis pas inquiet. Il va nous manquer, c'est sûr. Mais on va trouver quelqu'un de très bon. Et je pense qu'il l'avait déjà dans le viseur. Ils l'ont supervisé plusieurs fois à Charleroi, ce joueur-là. et on voit les caractéristiques qui collent parfaitement à Lille. Ça prend la profondeur, ça part de loin, ça fait des appels très intelligents.
C'est puissant.
C'est puissant, puissant mais rapide aussi. Et petit doute concernant Timothy Weah dans ce, parce que offensivement, il jouait à, non, défensivement, il était à 2 devant, il était plus dans un 4-4-2, et offensivement, ça ressemblait à un 3-5.
Damien, on y va déjà sur la trouvaille qu'est Victor Osimhen, la trouvaille selon Christophe Galtier.
C'est un joueur qui a été identifié depuis pas mal de temps par Louis, il m'en a parlé déjà depuis l'hiver dernier. C'était la priorité au poste d'avant-centre. Il a 20 ans, il a plein d'énergie. C'est un joueur qui, avant tout, avant d'être un joueur, il est un équipier. Avant d'être un joueur, c'est un buteur. Ça, c'est important.
On a Thomas Tuchel qui est en conférence de presse. Ça, c'est après la victoire 3-0 du PSG contre Nîmes. Écoutez-le.
Oui, on doit attendre des images, mais il a... je ne connais pas les mots en français. Mais le doc pense que c'est une chose pour une, deux semaines pause.
Ouais. C'est un coup, là.
Un coup, non, pas un coup. Non, c'est un peu cassé quelque chose. Ok, mais je ne sais pas le mot en français, mais on doit attendre les images demain matin. Et après, on peut dire plus précis, mais le doc m'a dit, il pense qu'en deux semaines, pause, ça va venir. Et oui, c'est le deuxième match et le deuxième joueur blessé. Je n'aime pas ça parce que... Il manque pour toutes les choses, pour créer une base maintenant, pour avoir la concurrence et comme ça, et pour créer des automatismes. Et voilà, on commence avec ces choses, mais okay, on doit adapter et trouver des solutions.
Il nous parle de Thilo Kehrer, évidemment, oui, hein, si vous nous rejoignez dans l'after. On va écouter encore une réponse de Thomas Tuchel. Des doutes, bah on parlait de la concurrence et Thomas. Encore une réponse de Thomas Tuchel.
Oui, et on peut voir que c'est pas la même chose de jouer des matchs amicaux ou jouer au Parc des Princes. On peut sentir que c'est pour Pablo et pour Abdou Diallo, c'est une ambiance nouveau et ils sont un peu nerveux. Et l'adversaire a fait très très bien, complètement serré. Quelquefois, ils ont défendu
dans 6. On en a parlé pendant la première demi-heure de cet after. On retourne sur ce LOSC FCN, victoire à Pierre-Mauroy, 2-1. Alors que, équité au niveau des tirs, hein, 13 de chaque côté, et cette performance, et cette trouvaille qu'était Victor Osimhen. De l'autre côté, finalement, ça n'est pas Patrick Collot, l'ancien intérimaire de Lille, qui était sur le banc du FC Nantes, mais bel et bien Christian Gourcuff. Bon, c'était arrangeant aussi, hein, pour les dirigeants nantais, afin de ne pas payer une amende, parce que Patrick Collot n'a pas les diplômes. On était en train de parler de blessures, Damien. Pas quand même pléthore de joueurs offensifs à Nantes, et un joueur qui a sans doute, puisque c'est l'avis de Christian Gourcuff, mais avoir perdu Marcus Coco pour 6 mois.
Quand on voit les images en direct, ça m'a donné des frissons. Hein. On voit cette hyperextension du genou là, en plus sur une décélération. Et Marcus Coco, apparemment, ça affecte vraiment Christian Gourcuff parce qu'il comptait en faire un homme de base de son dispositif. Donc quand tu commences comme ça avec un blessé et puis avec tout ce qu'on connaît à Nantes, hein, nouvel entraîneur qui arrive à peine. Finalement, on se dit que leur performance, elle est pas si mal que ça, face à Lille.
Alors, ils reçoivent Marseille, ils reçoivent Marseille la semaine prochaine, enfin, pour la deuxième journée. Et j'ai trouvé qu'il y avait, ouais, des motifs, même si le coup de la sortie de sur blessure de Coco arrive très tôt. Je pense que c'est à la 11e ou 12e minute. Ouais. Donc, ça change ses plans, évidemment, notamment sur l'aspect offensif. Damien, tu l'as dit. Mais, ouais, j'ai trouvé que ce Nantes pouvait évidemment inquiéter cette Olympique
Christian
de Marseille.
L'a rappelé. Il a dit Patrick Collot, tu choisis tes hommes, tu fais ta composition et ensuite je vais essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Ben justement, écoutez, Christian Gourcuff qui dit quand même, il y a un chantier tactiquement pour moi d'ici les semaines à venir avec le FC Nantes.
Bah, l'effectif, il est plein de bonne volonté. Ça, c'est la première chose. C'est quand même, je dirais que c'est essentiel pour trouver une solidarité et puis un collectif. Parce qu'avant avant les aspects tactiques, il faut déjà que qu'on ait un groupe qui vive bien. C'est le cas. C'est ce que j'ai vu. Sur le plan tactique, on part pas de zéro, mais je dirais c'est pour moi, c'est mon gros chantier maintenant.
Déjà 4-3-3, alors que bon vieux Gourcuff, c'est du 4-4-2 normalement. Et surprenant que ça parte comme ça. Donc à mon avis, c'est vraiment Colo qui a géré là.
Tu n'as pas choisi ton recrutement et on sait que Christian Gourcuff veut être investi dans toutes les strates d'un club. Tu ne déroges pas quand même à ton système, même si les hommes changent? Non, va faire adapter les hommes une nouvelle fois.
Ça dépend, c'est soit tu acceptes pas le poste dans ce cas-là.
Bah oui, mais enfin il a raison, Christian Gourcuff, c'est ce que tu dois faire.
Voilà.
Si tu imposes le système à tes joueurs, tu as 9 chances sur 10 de planter.
Mais au bout d'un moment, il faut que tu fasses avec le matériel que tu as aussi, hein.
C'est surtout ça, oui, les coachs intelligents, oui, ils adaptent le système en fonction de la matière première.
Où tes joueurs sont les meilleurs, à quelle position.
Le calendrier dense pour les Lillois, on pouvait avoir quelques frayeurs après les départs des grands noms. Bonsoir Charlie, l'entrée en matière est finalement réussie.
Bonsoir à vous trois, bonsoir à toute l'équipe.
Salut Charlie.
Ouais, bah c'est une belle rentrée des classes, je dirais. Je trouve qu'on a fait une super première mi-temps où on aurait même pu mener à 2-0 voire 3-0 si on jouait mieux les coups. Ça a été plus compliqué en seconde mi-temps. Physiquement, on a baissé un peu dans l'entame. Les Nantais nous ont bien rentré dedans au retour des vestiaires. Et après, on s'est bien repris avec l'entrée de Maya et surtout de Youssouf. Yazici. Et je trouve qu'il a apporté de la maîtrise au milieu de terrain, de la sérénité. Et voilà. Et puis, on a su tuer le match avec ce petit Osimhen là qui a l'air très prometteur. Donc, moi, je trouve que tout est très cohérent. Après, c'est que la première journée, il faut pas s'emballer. Mais j'ai trouvé ça super super cohérent et il nous manquait aussi pas mal de monde, Gabriel, Tcheka, Rémi, Arojo. Donc ouais, c'est prometteur à voir, mais une belle rentrée des
classes. Un premier international turc arrivé il y a 18 mois maintenant au poste de latéral, ce joueur qui jouait à Trabzon de fort belle facture internationale aussi, ça c'est
mais avec
encore
une meilleure réputation, avec ouais, une réputation
encore une belle
plus
vista
hein,
de Luis Campos et de cette cellule de recrutement.
C'est un des points de Damien, c'est la qualité de la cellule de recrutement qui est dirigée par Campos, c'est qui sur les 10 minutes, 15 minutes qu'on a vu de Youssouf, ouais, c'est a priori un joueur intéressant. Enfin, évidemment, on a hâte de le revoir. Alors, en revanche, je me demandais pas contre qui Lille va jouer la semaine prochaine. Ça, j'ai peut-être zappé, mais vous allez tout de suite me le dire, mon cher Thomas Desson, puisque ça ne vous aura pas échappé.
Au moment où tu
sinon,
dis effectivement,
mais tout.
Déplacement à la Licorne, effectivement.
Déplacement à la Licorne.
Le seul point noir pour moi sur le recrutement de Lille aujourd'hui, c'est Timothy Weah. Ou voilà,
genre de complément.
Alors qui sort, qui sort d'Écosse quand même. Il était au Celtics. Il a dû en voir quand même des défenseurs. Mais ouais, il s'est fait bouger. Mais tout le match, va falloir qu'il passe un peu à la muscu et qu'il joue plus avec son corps.
Et Charlie apporte ça.
Numéro 10, là, c'était un peu exceptionnel vu qu'il y avait pas mal d'absents. Il n'était pas forcément à son poste. Mais c'est vrai qu'il s'est fait pas mal bouger, notamment par Palois, tout ça. Je suis d'accord.
Ouais, et puis après le remplacement à droite, d'Ikoné. Je trouve qu'il a été très très studieux dans son match, bien
inspiré.
Ouais, il était vraiment très bon et
il a quelque chose
pas habituel pour lui.
L'arrivée l'an dernier de Raphaël Léaon, il y a un moment de flottement pour Lille pendant l'hiver, est-ce qu'on refait jouer Loïc Rémy, etc. Finalement là, on voit qu'il y a déjà une certaine hiérarchie qui s'est dessinée. Charlie, qu'est-ce que tu en penses ? Non ?
Oui, alors je suis curieux de voir en fait. Je sais pas du tout dans la tête de Galtier, mais là en tout cas Osimhen a marqué des points, mais en tout cas Rémy dans les matchs de préparation et le dernier contre la Roma a été précieux, il décrochait pas mal, physiquement aussi il impose. Donc non, ça sera intéressant à voir à l'avenir. Mais en tout cas, tout est très cohérent après avoir. Mais je pense qu'ils nous réservent une petite surprise pour le mercato, les dirigeants lillois, et vont nous faire un petit coup dans la fin du mercato, je le sens bien. Une petite surprise, je pense.
Même coup offensif ?
Le président Lopez parlait d'un milieu de terrain qui avait l'habitude de jouer avec des champions. Et on l'a pas encore eu. Et bon, pour l'instant, il tient toutes ses promesses. Alors, je sais pas. Mais j'ose espérer peut-être que quelqu'un qui viendrait peut-être en milieu de terrain ou peut-être aussi en offensif. Je sais pas.
Charlie, vous aviez la bip, là vous avez la bop, bibop. Vous pouvez continuer de danser en tout cas et être euphorique à Lille. Merci.
Joli.
Merci de ta participation.
Il y avait quelques points tactiques. Quelques points tactiques de la part de Galtier.
Bibop.
Intéressant. sur en évolution aujourd'hui, je trouve. Quand on avait le ballon, ça passait en 3-4-3 à peu près. Défensivement, ça repassait à 4 derrière. Petite évolution par rapport à l'année dernière, mais qu'il faudra voir et approfondir, je pense.
Voilà, mais si on va qu'il veut avoir plus de possession sur la transition défensive et offensive avec un système qui s'adapte.
Je pense.
On moins voyait, basculé.
On voyait que Celic, par exemple, était plus en place, Fonte et Diallo lorsque c'était en construction, et on avait un Bradaric qui jouait presque milieu gauche.
Qui n'a pas beaucoup convaincu d'ailleurs.
Et Ikoné qui jouait milieu droit, et ensuite les trois autres devant.
Allez, deux petites minutes, messieurs, quand même, sur ce match de 17h entre le Racing Club de Strasbourg face au FC Metz. Un partout à l'arrivée, Adrien Thomasson à la 21e minute. Une égalisation avec Habib Diallo, c'est cette fameuse génération foot. On a vu Sadio Mané, Ismaïl Assar et les autres. Renaud Coad, toujours bon face à son ancien club. Il y a même potentiellement un hold-up des Grenats en fin de match. Le calendrier est déjà dense pour le Racing qui va retrouver à la Méno Plovdiv dans ce troisième tour de qualification pour l'Europa League avant évidemment cette terrible double confrontation contre l'Eintracht Francfort. Strasbourg fait
c'est
le boulot,
mais c'est en très 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 bonne voie. Oui. Non, mais on ne sait jamais dans le football, Monsieur Desson. Mais oui, c'est l'Eintracht. Enfin, je ne vais pas parier quelque chose ce soir, sinon je vais perdre.
Strasbourg. Thierry Laura avait décidé de réaligner là, les quatre qu'il avait laissés au repos. Est-ce que c'est deux points de perdu quand même, Damien ?
Compliqué. On a eu quand même. Oui. Il y a eu des opportunités pour Strasbourg de vraiment gagner ce match. Maintenant, le chantier de Strasbourg, pour moi, c'est cette défense, toujours. On l'a vu en difficulté au Maccabi.
Djikou, Mitrovic.
Parce que là, même sur le but. C'est pas parce que tu mets plus de défenseurs que tu vas mieux défendre. C'est faux. Et là, sur le but, on voit que c'est Diallo qui marque. C'est ça, il me semble. Il est au milieu de 4-5 défenseurs. Il est tout seul. Il y a personne qui prend la décision de le prendre. Peut-être, voilà, ça manque de responsabilité au sein de cette défense.
Moi, j'ai trouvé que le match, j'ai trouvé une copie brouillonne des deux côtés. Alors, peut-être sur le promu. Pas trop surpris, parce que quoi attendre de mieux de la part, alors j'ai pas vu jouer Brest, mais de la part d'un promu. Après Strasbourg, il y a l'excuse ou l'explication de des matchs comme ça qui s'enchaînent. Mais sinon, voilà, je trouve que c'est brouillon, je trouve que ça manque un petit peu de lien dans le jeu, ça manque aussi de qualité technique dans l'entrejeu du côté du Racing. Bellegarde est un joueur qui peut avoir quelques fulgurances, mais je trouve qu'il fait un peu plus la différence physiquement que techniquement.
Il n'a pas répondu à l'appel de Thierry Loret ce soir, effectivement, en cette fin d'après-midi.
Ouais, et puis par contre ailleurs qui lui
il était en difficulté aujourd'hui, muselé par Sunzu.
Oui, mais sur 2-3 coups, on sent que il peut quand même il peut tirer une fine du pied, il peut être tranchant quand même.
3-0 pour le Paris Saint-Germain face à Nîmes. 3-0, c'était le score de Lyon face à Monaco dès vendredi soir. 2-1 pour le LOSC face au FC Nantes, et donc un point pourri pour le Racing Club de Strasbourg face au FC Metz. Voilà pour le championnat de France. Dans un instant, on parlera de la Première Ligue. Là aussi, on a joué vendredi, samedi et dimanche. Vous écoutez l'After sur RMC.
RMC, l'After Foot, Thomas Desson.
Avec de très souriants, vous l'entendez dans la voix, Damien Périnel et François Manardeau. Dernier quart d'heure, dernière ligne droite de cette belle semaine et de cette première journée en Ligue 1 et en Première Ligue. C'est la quatrième saison sur RMC Sport de foot anglais, 100% des matchs. Vous avez deux émissions, la continuité avec Première Ligue, PL Live, et le magazine avec PL Zone. Messieurs, vendredi, le Dauphin, le champion d'Europe, a gagné 4-1 contre Norwich. Je parle de Liverpool. Une Manita 5-0 des Citizens samedi. Tottenham à l'arraché avec un but de Ndombele, ça c'est pour samedi. Vous voulez commencer par quoi ? Ce Newcastle-Arsenal, un peu à l'arraché avec Pierre-Emerick Aubameyang dans les trombes d'eau de St. James Park.
Et jamais simple d'aller gagner à Newcastle. Je crois que c'est l'un des déplacements les plus redoutés souvent par les équipes là-bas. Donc de les prendre pour Arsenal qui est en pleine reconstruction offensive et puis sans leur recrue David Luiz ni Nicolas Pepe qui était sur le banc, ça reste un bon résultat. Après, pour la manière, on repassera quand même. C'est vrai que c'était assez délicat, même au niveau de l'intensité, au niveau du rythme de ce match. Pas oublier que c'est Chelvet, je crois, qui met une frappe sur le poteau.
Jonjo Chelvet, ce grand mec à la boule à Z qui a pas réussi à percer suffisamment pour être international, mais qui montre des choses de temps en temps.
Donc, non, sur le match, beaucoup de travail encore pour Unai Emery. Maintenant, une fois qu'il aura toutes ses armes en main, alors on va voir ce qu'il va en faire de cette équipe.
On a vu Pépé rentrer à la 71e, 20 minutes. Alan Saint-Maximin de l'autre côté. Du Alan Saint-Maximin,
mais
les terrains sont gras, donc il a été des crampons de 12, faut des crampons de 16. Il a un petit peu glissé.
Ça change de Nice, les gars.
Oui. Non, il a beaucoup mouliné, il a beaucoup essayé, il n'a pas beaucoup réussi. Non, dans le chapelet des matchs que tu as énoncé.
Oui.
Juste oublié Manchester United, Chelsea.
On y vient. Allons-y. Et ce que tu souhaites, on va exaucer
mais
ça.
Juste que je me disais, mais comment il en parle
pour finir sur Arsenal.
Bien sûr.
Quand même, l'enchaînement d'Aubame est magnifique sur le contrôle, parce que petit contrôle sur un terrain humide de l'extérieur du pied avec un petit rebond devant et enchaînement derrière, il en a raté des comme ça, plus d'un. Mais là, il le met, donc on va quand même le féliciter.
Contre Chelsea, Manchester a souvent le blues. Plus grand nombre de défaites, plus grand nombre de buts encaissés depuis le début de la Premier League, soit en février 92. Oui, mais ça, c'était avant. C'est la première fois en Angleterre qu'on a deux légendes des clubs en tant que joueurs qui deviennent entraîneurs. On le rappelle, Ole Gunnar Solskjaer, le super sub, le buteur de 99 en Ligue des Champions, face à Frank Lampard, évidemment, qui est le meilleur buteur de l'histoire du club, alors que c'était un milieu relayeur. Eh bien, ça n'a pas fait photo. 4-0, messieurs. D'abord une chose, parce qu'on en parle dans nos mercatos depuis quelques semaines, Fred Hermel était persuadé que Zizou voulait jeter son dévolu dessus, c'est certain, mais qu'en est-il de l'avenir de Paul Pogba? Écoutez l'intéressé.
Je suis bien, toujours quand je joue au foot, je fais ce que j'aime, c'est mon boulot, je donnerai le maximum à chaque fois que je serai sur un terrain vert. Maintenant, on sait, il y a eu des paroles et l'avenir nous le dira. On reste toujours sur ce point d'interrogation, mais voilà, comme j'ai dit, maintenant je suis à Manchester, je prends du plaisir avec mes coéquipiers, je veux toujours gagner mes matchs et je vais toujours me donner à fond quand je serai sur le terrain.
Il en dit trop. C'est à un moment donné, tu sais, je me dis bon, il va s'arrêter parce qu'en fait, il ne cite jamais le
Manchester. Ah non, mais j'ai failli dire à notre producteur. Et puis, Cyprien Bétou, t'es pas sympa.
Il continue. Bah, il glisse quand même. À Manchester, tu vois, alors que les paroles, il parle des paroles comme si c'était celles d'autrui, mais c'est les siennes. C'est lui qui a très clairement dit, voilà, je veux quitter Manchester United. C'est mon envie, c'est mon ambition. Maintenant, il est correct avec son employeur.
Il est plus que correct avec son employeur. Il est double passeur cet après-midi encore.
Oui, il est plus que correct. Il joue le jeu à fond, contrairement à d'autres.
Voilà, c'est ça. On peut quand même dire de Paul Pogba tout ce qu'on veut. Il est exubérant. Parfois, il en rajoute, il en fait trop.
Et loyal.
Mais exactement. Il est loyal. Et aujourd'hui, je trouve que dans le foot, ça fait du bien de voir un exemple comme ça. Il a le droit de bouder, hein, autant qu'il veut à l'entraînement, ne pas sourire.
En fait, Damien, il est loyal. Il est business. C'est un joueur pro.
Oui. C'est un pro, exactement.
Oui,
et puis au prix où on le paye, et bah, il se dit voilà, j'ai des devoirs. Il les respecte, il le fait bien, parce que sur le terrain aujourd'hui,
exactement.
Ça a été compliqué en premier temps, mais il a su être décisif. Il fait une passe exceptionnelle, coup de pied là sur. Rashford. On a décrié ce joueur pour son comportement parfois, ou en se disant qu'il était un peu nonchalant.
Parfois, lui faire un mauvais procès. Voilà.
Mais là, excusez-moi, on peut dire.
Il est triplement. Il est triplement professionnel. D'abord, parce que.
J'ai dit qu'il était doublement passeur.
Dans le jeu, c'est très important. Parce qu'il ne fait pas la gueule, comme Damien l'a dit, et parce qu'en plus, CQFD, contrairement à. Regardez du côté du Paris Saint-Germain.
Oui.
Il prend la parole à la fin du match. Il accepte de répondre à des questions, voire il prend lui la parole pour dire « Non mais voilà, moi, ça se passe en ce moment, ça se passe bien, je suis content, je joue au foot. » D'autres seraient aussi bien inspirés à un moment ou à un autre, pas que le PSG, mais l'employé de prendre la parole, le salarié de prendre la parole pour dire « Voilà moi ce que je souhaiterais, pas ce que je veux, pas ce que j'impose, voilà ce que je souhaiterais. » Paul Pogba, il est triplement professionnel ce soir, les amis.
Et puis la réaction de Solskjaer, de son coach aussi, qui disait non, mais Paul, moi j'ai rien à lui reprocher. Il est professionnel, impliqué dans les entraînements, et il le démontre.
Un grand joueur dans un grand club.
On parle de nos Français. l'après Lukaku, c'est un dossier. Parce que Lukaku, c'est quand même un ovni. Quand il est avec d'autres Diables Rouges, Mertens, De Bruyne, Hazard, ok, il est servi, ça marche. Enfin, depuis un moment, c'était quand même l'arbre qui cachait la forêt. Lukaku est parti, il est Nerazzurro, il est à l'Inter. Et là, cet après-midi, les plus grands experts de la maison, hein, la rédaction RMC Sport qui regardent et qui suivent les matchs, disent non, bah, ça va être Rashford dans l'axe. Ole Gunnar Solskjaer dit non, je veux que Martial soit au plus proche du but. Il était en pointe. Sa première saison, c'est 17 buts, toutes compétitions confondues. Est-ce qu'il peut péter la baraque, Anthony Martial, avec un 9 dans le dos et au vrai poste en pointe de numéro 9?
En tout cas, il est... Voilà, Lukaku, super joueur, tout ce qu'on veut, profil différent de Martial, mais c'était un langage foot différent, je trouve, de ce que de ce qu'il pouvait avoir autour de lui. Là, on voit, ça combine super bien quand même avec Rashford, notamment. Il y a une succession de 1-2 souvent. On sait qu'il y a une connexion avec Paul Pogba aussi qui est très intéressante. Donc aujourd'hui, voilà, on espère enfin qu'il va confirmer, il va jouer 9.
Mais à ce poste-là.
Mais 9.
Est-ce que tu ne crois pas que il doit un peu sacrifier certaines qualités d'accélération, de jeu dans la profondeur, parce que 9 en pointe, même si, on en parlait juste avant le début de l'émission, Damien, le but, il en marque un seulement cet après-midi, ouais. Et ben sur ce but là, moi il m'a surpris parce que il passe devant le défenseur de Chelsea, c'est un vrai but de finisseur comme ça, de renard des surfaces.
Encore
ça
une
m'a
fois,
plu.
Encore une fois, on dit 9 pointe, mais si tu regardes sur ce but, qu'est-ce qui bouge? Il bouge Azpilicueta, qui est l'arrière droit. Il vient d'un côté. En première mi-temps, on l'a vu plusieurs fois faire des différences, justement, sur le côté gauche de Manchester, le long de la ligne, ainsi de suite. Donc, en gros, voilà, ça va pas être le point d'appui comme Lukaku pouvait l'être, mais c'est quelqu'un qui va un peu plus se balader sur le front de l'attaque, mancunienne.
Il a pas beaucoup de place, comme il jouait avec, à trois devant.
Mais ça va surtout permettre, il y a Rashford qui va se retrouver dans l'axe à un moment, lui sur le côté. Voilà, ça va bouger, je pense.
François et Damien, dans un premier temps, sur le cas Frank Lampard. Il a été sixième avec Derby County en championship. On sait, et pour les joueurs, et pour les entraîneurs, le fossé est encore plus grand qu'en Ligue 2, Ligue 1. Est-ce que c'est un cadeau empoisonné, cette équipe interdite de recrutement pour Frank Lampard?
Bon, un cadeau empoisonné, c'est que la première journée aussi. Donc on va aussi faire preuve de
T'as
la même.
T'as le sentiment qu'ils sont en sur-régime pendant une mi-temps. Ils touchent une barre, ils touchent un poteau et derrière ça décroche.
C'est vraiment, enfin, c'est difficile. Après, il a de quoi non pas lutter pour le titre, ça c'est certain, mais de quoi se bagarrer pour accrocher une place européenne. Si c'est le deal que Abramovich accepte, si c'est un objectif qui est imposé à Lampard et que Lampard il dit ben ok, de toute façon je peux pas prétendre mieux, peut-être une coupe et accrocher une place européenne, il sera dans les clous. Mais évidemment, avec ce Chelsea interdit de recrutement, c'est pas un cadeau, mais il doit être dans les places européennes.
Je comprends sixième dans tes propos, à minima
j'allais rajouter.
D'accord.
Exactement.
Effectivement, on a vu Everton qui peinait, pas de but contre Palace.
Tu as un Jorginho qui est orphelin de Sarri dans cette équipe. Et puis Jorginho, ça reste Jorginho par rapport à dans la lignée de la saison de la dernière. Kanté qui joue pas, surprenant quand même. Mais après surtout son axe central, et là Kurt Zouma a eu une première mi-temps ultra compliquée, et ça, rien que dans ses passes, on sentait pas une sérénité absolue.
Et impliqué sur ce premier penalty. Alors il y a eu deux ans de prêt, il y a eu du bon du moins bon. Ça faisait deux ans qu'il avait pas joué, Kurt Zouma, avec les Blues.
Ouais, donc et puis alors c'est vrai qu'il revient de prêt, souvent ballotté ces dernières saisons, il était à Everton, c'est ça, l'année dernière, avec Luca Digne. Donc voilà, bah, surtout qu'il retrouve rapidement une assise défensive et qu'il fasse jouer les bons joueurs. Je crois que devant il y a eu pas mal de jeunes joueurs également, hein, qui ont été parfois performants et d'autres moins en vue. Mais in fine, ce score est un peu sévère quand même, vu la physionomie de ce match.
Eh oui, la première mi-temps un peu plus accrochée, 1-0. Merci messieurs pour cette fin de semaine. On termine l'after là-dessus.
Mais oui,
François,
déjà.
On se retrouve. Mais ouais, ça va. Une heure, ça file. À partir du 19 août, vous aurez 3 heures avec Gilbert Bribois et son équipe. Donc là, attention, ça va envoyer du lourd de 21h.
3 heures quand il n'y a pas de match.
À minuit. Merci les afteriens. Gardez les pieds sur le rectangle vert.
Merci à vous.
Bye bye.
RMC. L'after foot.